Stop, c'est parti.
Demandez-moi la télé.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Et si on passait les fêtes sous le signe des Gémeaux?
Vous vous coupez?
Non, je vous vois.
Vous êtes en direct, allez-y.
C'est un homme qui a aboli les frontières entre le jazz et la variété, entre la chanson et la musique classique. Michel Legrand, compositeur, pianiste de génie, est au cœur d'un documentaire, d'un portrait virevoltant demain soir sur Arte. C'est la première fois qu'un documentaire est consacré à ce monument vivant et il était grand temps. 52 minutes pour retracer son parcours, le mépris de la critique au début de sa carrière, la consécration à Hollywood, les collaborations magiques avec Jacques Demy. C'est à voir demain, juste après Les Demoiselles de Rochefort, toute une soirée avec Legrand, c'est la meilleure des fêtes de fin d'année. L'auteur de ce documentaire est mon invité. On parlera aussi de regrets numériques ce matin. Les paroles s'envolent, les écrits restent, mais sur Internet, on peut supprimer ce qu'on voudrait ne pas avoir dit. Xavier Delaporte, dans sa chronique, s'interroge sur ce qu'un tweet effacé révèle de son auteur. Bienvenue à tous et à toutes.
L'instant M, Dorothée Barba, sur France Inter.
Bonjour Grégory Monroe.
Bonjour Dorothée.
Merci d'être là en direct sur France Inter. Vous êtes l'auteur de ce documentaire, Michel Legrand, sans demi-mesure, demain soir 22h50 sur Arte. Y a-t-il un point commun entre Calamity Jane, Pierre Richard, Jerry Lewis et Michel Legrand?
Absolument.
Lequel?
Pour moi, ce sont tous des outsiders, en fait. Et ce sont des outsiders, c'est le terme anglais.
Ce sont tous les personnages auxquels vous avez consacré des documentaires.
Oui, 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 mais ce sont des personnages marginaux, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est que ce soit dans la comédie ou dans la musique, les gens ont tendance à oublier que faire de la comédie, par exemple, enfin, un acteur comique, c'est avant tout un acteur. Et de même qu'un musicien qui fait, par exemple, de la musique de film, ce n'est pas un compositeur seulement de musique de film, mais c'est un musicien avant tout. Et c'est ce qui m'intéressait notamment avec Michel Legrand.
Michel Legrand, outsider, c'est sans doute pour ça qu'il n'y avait pas encore de grand documentaire sur sa carrière.
Oh, je ne sais pas quelles sont les véritables raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de documentaire, mais je pense que c'était un personnage complexe, Michel aussi. Donc il est difficile à saisir parce qu'il s'est essayé à tellement de domaines musicaux, tellement de disciplines musicales que il a été difficile à cerner en fait par beaucoup de gens.
Votre film est truffé d'images d'archives délicieuses et de musique évidemment. On y voit aussi Michel Legrand aujourd'hui hein, puisqu'il vous a accordé un long entretien. Ouais. On en parle dans un instant. D'abord la chronique de Xavier Delaporte qui ouvre chaque semaine une fenêtre sur nos vies numériques. Bonjour Xavier.
Bonjour Dorothée, bonjour à tous.
Question ce matin autour des remords sur Twitter.
Oui, il y a un an a été ouvert un compte Twitter du nom de Fallait pas supprimer. Son principe, comme tous les bons principes, est très simple. Il reproduit des tweets que leurs auteurs avaient supprimés. Ainsi, si l'on suit ce compte, on voit défiler des phrases qui auraient dû disparaître, mais qui sont soudain sorties des limbes numériques pour réapparaître devant nos yeux. Alors évidemment, ce compte connaît un grand succès, d'autant que ce n'est pas n'importe qui est épinglé. La plupart du temps, ce sont des responsables politiques, parfois des journalistes ayant pignon sur rue. Alors comment ce compte procède? La personne qui l'a créé m'a expliqué avoir eu l'intuition qu'il y avait plus dans un tweet supprimé que dans tout autre tweet et qu'elle avait commencé de manière assez artisanale avant d'industrialiser le processus avec un petit programme. Bref, tout ça fonctionne très bien. Alors on peut trouver ça cruel.
Ah oui.
Ouais. Quand un ministre supprime un tweet parce qu'il comporte une énorme faute d'orthographe, quand il s'agit de retirer une formule qui aurait pu être mal interprétée, sortie de son contexte, ou alors quand une députée se trompe d'émoticône et utilise le symbole du fou rire pour annoncer le cinquième mort de l'attentat de Strasbourg, oui, on peut dire qu'il y a une forme de cruauté à souligner ces erreurs et à les diffuser. Mais deux choses à noter. Un, ça a quand même la vertu de montrer que l'approximation est une tare bien partagée et que la communication est une entreprise toujours risquée. Deux, cette production est assez marginale dans ce que diffuse « Fallait pas supprimer », dont l'ambition va au-delà. Parce que ce qu'on voit le plus souvent s'exprimer dans la suppression d'un tweet est en effet intéressant. C'est un remords. Remords qui peut avoir différentes causes, chacune illustrant un travers possible de nos nouveaux modes de communication. Remords d'avoir parlé sous le coup de la colère et regret de ne pas avoir attendu un peu qu'elle retombe avant d'insulter l'interlocuteur. Remords d'avoir été méprisant. Par exemple, la période des Gilets jaunes a été très fertile en tweets de la majorité gouvernementale, notamment dans lesquels elle s'exprimait avec un mépris social évident et ensuite les auteurs ont essayé de supprimer ces tweets, les faire disparaître. Remords d'avoir fait une prévision foireuse ou encore remords d'avoir relayé trop vite une information douteuse où on s'aperçoit que pas grand monde donc n'est à l'abri de la crédulité immédiate. Donc oui, il y a des informations dont ces tweets supprimer. Il y a la visualisation de l'écart qui existe entre l'image qu'on voudrait donner de soi et celle qu'on donne malgré soi dans la précipitation, et cet écart est toujours parlant. Et se faire épingler vexe souvent les auteurs qui se vengent en bloquant « fallait pas supprimer » pour sortir des radars du compte. En fait, ce qui me frappe là-dedans, c'est la très grande puérilité des outrés. En permettant de supprimer un contenu qu'on a posté, les réseaux sociaux offre une possibilité quasi magique de retirer un propos. Je retire, vous savez, c'est ce que disent les enfants quand ils sont allés trop loin, en espérant que ça suffise. Eh bien, fallait pas supprimer, annule cet acte magique. Tu croyais avoir retiré ? Eh ben non, c'est toujours là. Et c'est encore pire. En culture numérique, on appelle ça l'effet Streisand. C'est-à-dire ce qui fait référence à une vieille histoire de l'Internet quand Barbara Streisand avait voulu faire interdire une photo de sa maison qui circulait dans les réseaux. Eh ben, ça avait fait pour effet de faire multiplier les photos de sa maison. Ce compte fallait pas supprimer n'est qu'une invitation à assumer sa propre connerie, sa propre malhonnêteté, ses propres outrances ou négligences. Et on peut comprendre que ce soit difficilement supportable.
Merci Xavier Delaporte. Cette chronique est à retrouver sur le site de France Inter et elle sera diffusée sur les réseaux sociaux sans aucun risque de remords. Transition toute trouvée, Michel Legrand a mis en musique un film de Barbara Streisand.
L'instant M sur France Inter.
Michel Legrand sans demi-mesure, documentaire à ne pas rater demain soir sur Arte. Il est déjà en ligne d'ailleurs sur le site d'Arte. J'aimerais d'abord parler de la forme, Grégory Monroe, parce qu'on apprend plein de choses sur Michel Legrand, sur son talent et sur sa personnalité. Mais ce film est aussi plein de malice dans le montage, dans l'écriture. Et il y a surtout cette idée très jolie, la voix off, celle qui parle dans le documentaire, c'est la musique.
Je pulse. Je fuse, je swing, je suis libre, moderne, futile. Après quelques années de loyaux services, durant lesquels Michel et moi collaborons avec des artistes renommés, il était temps pour nous d'affirmer notre style, de passer des coulisses à la scène.
Comment est née cette idée étonnante de faire parler la musique à la première personne ?
Tout naturellement. C'est-à-dire que j'ai toujours eu pour objectif de me dire on a le fond, on a une histoire à raconter, on a un sujet, on a un personnage, comment le raconter le mieux possible, comment être le plus cohérent avec le personnage. Et Michel, je l'ai rencontré plusieurs fois, on se connaît depuis un petit moment, me parlait de la musique comme si c'était justement une femme, un personnage. Et j'ai saisi cette histoire très charnelle entre eux, cette histoire d'amour presque avec la musique, et je me suis dit voilà, si j'ai un commentaire à faire dans le film, parce que dans le documentaire on fait souvent des commentaires évidemment pour faciliter la compréhension et expliquer aux spectateurs un peu l'histoire, mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de plus original, de plus en phase avec la personnalité de Michel. Et voilà, l'idée m'est venue tout naturellement et je me suis dit que j'allais raconter cette histoire entre la musique et Michel à travers justement cette voix qui incarne la musique.
Et cette voix off prend tout son intérêt lorsque vous abordez la place de la musique au cinéma, justement avant le grand, dit la voix off, je n'étais pas un personnage au cinéma, on me volait la vedette, je devais rester discrète. On n'accordait pas d'importance à la musique au cinéma avant Michel Legrand.
Alors, c'est pas qu'on n'accordait pas l'importance à la musique, c'est que la musique devait un peu s'effacer, elle devait accompagner l'action, les dialogues, les sentiments, elle devait être, on va dire, en seconde couche, elle devait être en retrait. Et Michel, quand lui est arrivé au cinéma, justement, il a hissé la musique sur un piédestal, et il en a fait, évidemment, presque un personnage, mais presque un second film, on va dire. C'est-à-dire que cette musique prenait énormément de place, d'ampleur dans le récit, dans la narration.
Alors, s'il y a énormément de rythme dans ce documentaire, c'est qu'il y a beaucoup de musique et beaucoup d'images d'archives, je le disais. Également, un long entretien avec Michel Legrand, qui va bientôt avoir 87 ans.
Ouais.
Vous savez, je me suis jamais perdu de vue. Je me suis détesté. Je me suis adoré. Et nous avons vieilli ensemble. Cette arithmétique m'épargne de m'étonner de vieillir. C'est Paul Valéry qui chante ça. Il a raison.
Un joli lapsus au passage, c'est Paul Valéry qui chante ça, dit Michel Legrand.
Ouais, absolument. Mm. C'est pas de Michel Legrand, mais Michel s'y trouve totalement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent également.
Comment est-ce qu'il a accepté cette initiative de documentaire, Michel Legrand ?
Déjà, il faut savoir que Michel, en fait, n'était pas forcément en faveur de, d'un documentaire sur lui. Enfin, ça fait déjà depuis de longues années, il y a eu plein de projets documentaires ou plein de, d'auteurs, réalisateurs qui voulaient faire des films sur Michel. Et lui s'y refusait car il n'avait pas envie, il sentait que c'était pas le moment, il voulait pas qu'on parle de lui. Faut savoir aussi que Michel a été quand même assez, il a été quand même assez critiqué, tout le long de sa carrière, pas qu'au début d'ailleurs. Et je pense qu'il y avait un peu cette crainte-là, c'était peut-être pas le moment pour lui. Et là, depuis quelques années, il a fini par accepter cette idée-là. Et c'est de sa propre initiative. Et d'ailleurs, c'est en fait lui-même, son manager, qui m'a contacté parce que Michel avait vu mon film précédent sur Jerry Lewis. Et Michel était un grand ami de Jerry.
Et ils jouaient ensemble.
Oui, ils ont fait des spectacles comme ça ensemble. Jerry est venu un peu faire le clown durant des shows de Michel. Et du coup, ça l'a touché parce que j'ai demandé de l'autorisation parce que j'avais utilisé dans le Jerry Lewis un extrait de sketch avec Michel et Jerry. Et il a accepté tout de suite. Il a dit oui, bien sûr, vous pouvez l'utiliser. Et puis, comme par hasard, 2-3 mois plus tard, j'ai un coup de fil me demandant justement de faire un film sur Michel. Et voilà, c'était grâce à ça.
Vous parliez des critiques à l'instant, ouais. Grégory Monroe. Effectivement, il est aujourd'hui très largement reconnu et consacré. Mais il faut se souvenir à quel point il a été méprisé au début de sa carrière.
Ce qui est important, c'est d'avoir un musicien à l'origine de cette entreprise. Or, je, personnellement, et c'est mon goût, je dénie à Michel Legrand l'appellation de musicien.
Et je n'arrive pas à comprendre comment, en ajoutant un roman feuilleton avec une musique qui ressemble à de la confiture, on fait de l'avant-garde. C'est ça que je veux dire.
Michel Legrand confond la musique et les fonderies du Creusot, a-t-on pu lire dans François en 1956. Ouais. Et 62 ans plus tard, il vous le cite dans le texte, cet article, Michel Legrand, il s'en souvient très précisément.
Ah il s'en souvient, c'est sa première critique et ça l'a marqué profondément.
C'était la confiture, ça l'a marqué aussi son
confiture, oui, confiture, peut-être un peu moins la confiture, quoique à la période de Noël. Mais oui, d'autant plus qu'au début, il était tout jeune, Michel. Il faut savoir que cette première critique de François, elle date de l'époque où il accompagnait Maurice Chevalier à l'Alhambra. Pendant près d'un an, en fait. Il a fait la première partie de Maurice Chevalier, et puis ensuite, il était chef d'orchestre, il orchestrait un peu tous ses concerts. Et effectivement, il jouait, à cette époque-là, du jazz extrêmement moderne, du jazz totalement déluré, et effectivement, le public était totalement abasourdi et huait Michel tous les soirs. C'est-à-dire, il faut vraiment se remettre dans le contexte. Il a été hué tous les soirs.
Le jazz, c'est la grande affaire de sa vie. Au tout début de sa carrière, Legrand est d'abord arrangé, un compositeur pour Salvador, pour Brel, pour Becco, Nougaro. Et puis il passe de la coulisse à la scène avec cet album de jazz qui rencontre un immense succès, ouais. Le Grand Jazz, sorti en 59. Le casting est complètement ahurissant. Il y avait Miles Davis, John Coltrane, Duke Ellington, Bill Evans et Michel Legrand qui n'a que 26 ans.
26 ans.
Les photos d'archives sont délicieuses.
Elles sont délicieuses, mais elles sont impressionnantes. Ouais. C'est impressionnant de voir Michel...
avec sa tignasse et ses lunettes.
Voilà, au côté.
Une allure d'intello.
Exactement, oui. Comme le dit son biographe Stéphane Lerouge, que je salue.
Et qu'on voit dans le film.
Voilà, qu'on voit dans le film, qui est brillant. Et c'est vrai que... Oui, je pense que Michel est arrivé aussi au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Je pense qu'il est arrivé à une période charnière, musicale, on va dire, où les gens, où on pouvait se permettre de faire des choses un peu différentes. Et je pense que lui a initié beaucoup de choses.
Alors, vous donnez la parole à Damien Chazelle dans ce film, ouais. Grégory Monroe, le réalisateur de La La Land, grand admirateur de Legrand, également à Bertrand Tavernier. Ce dernier a une très jolie formule sur la collaboration entre Jacques Demy et Michel Legrand. Il dit « La musique de Legrand efface ce que Demy aurait pu avoir de mièvre. »
Ouais. C'est vrai que, alors, ce qu'il a fait avec Jacques Demy, c'est assez exceptionnel, parce que bon, aujourd'hui, tout le monde le sait, mais il a inventé un genre unique, c'est-à-dire la comédie musicale à la française. On n'avait pas ça.
Et l'idée de Demy et Legrand, c'est d'associer des dialogues, tout ce qu'il y a de plus banal et quotidien, avec de la musique savante.
Nous sommes perdus, toujours les grands mots. 80 000 francs à payer avant le 15, tu trouves ça drôle? Et si tu ne paies pas, on nous saisira. Je travaillerai. Quel genre de travail? N'importe quoi. Au poste ou à la mairie, pourquoi pas?
Le Grand Demy, c'est moins une rencontre entre un cinéaste et un compositeur que presque la fusion de deux poètes. Parce que Demy est un des cinéastes de la Nouvelle Vague qui a le plus grand sens pictural. C'est quelqu'un qui a vraiment une vraie préoccupation sur le découpage, la lumière, la couleur, la fonction dramatique de la couleur chez Demy. Et la musique de Legrand qui transporte et qui fait monter tout ça encore d'un voire deux crans supplémentaires.
Nous voyageons de ville en ville, nous représentons des motos, des bicyclettes et des bateaux. La route est notre domicile.
Un jour ici, un jour ailleurs, nous vivons
ah, on s'en sans veut de couper cette merveille. Legrand a aussi travaillé avec Agnès Varda, avec Jean-Luc Godard, avec Orson Welles et j'en passe énormément. Est-ce qu'il souffre d'être surtout reconnu comme un compositeur de musique pour le cinéma?
Non,
Grégory Monroe,
non, non, pas du tout. Non, non.
Parce qu'il y a eu beaucoup d'autres choses. Il y a eu de la symphonie, il y a eu de la chanson,
il y a eu du jazz. Bien sûr, il y a eu du jazz. Non, non, il ne souffre pas du tout. Non, ça lui a apporté quand même une reconnaissance internationale, dont 3 Oscars quand même aux États-Unis. Il faut quand même le souligner. C'est quand même le seul compositeur de musique de film français à avoir obtenu 3 Oscars.
Le premier avec l'affaire Thomas Crown.
Oui, oui. L'été 42 et Yentl de Streisand.
C'est d'ailleurs pour fuir les mauvaises critiques en France qu'il file à Hollywood, à votre avis?
Non, pas du tout. Non, c'est juste que Michel, en fait, fonctionne par période.
Ah.
Voilà. Alors, voilà, il faut savoir que Michel, au bout de 10-15 ans d'avoir exploré vraiment, de s'être aventuré dans une discipline musicale, il se lasse et il a envie de passer à autre chose, il a envie d'aller ailleurs. Et Michel fonctionne vraiment comme ça. C'est pas du tout. Alors Michel est la dernière personne à se dire je vais arrêter de faire ce que je fais parce que j'ai ou une mauvaise réception ou on comprend pas ce que je fais. Absolument pas. Il fonctionne pas comme ça.
L'un des passages les plus sidérants, je dois dire, dans votre film, Grégory Monroe, c'est quand on apprend comment Michel Legrand a appris le piano quand il était enfant. Ouais. Comment ça s'est passé?
Michel était un enfant unique. Mmh. Il a été abandonné par son père, qui était d'ailleurs chef d'orchestre aussi, qui s'appelait Raymond Legrand. Il avait quoi, 3 ans, je crois. Et donc, il vivait à la maison avec sa mère, sa sœur et sa grand-mère. Et il était tout seul. Il a refusé d'aller à l'école. Il était un enfant très timide, très cloîtré. Et chez lui, il y avait un vieux piano et une vieille radio. Et il écoutait comme ça, la radio, des chansons tous les jours, notamment des chansons de Charles Trenet. Et il s'est mis comme ça, tout naturellement, à pianoter, parce que c'était son seul copain, quoi, le piano.
Il a apprivoisé la musique en recopiant les chansons qu'il entendait.
Absolument.
À la radio.
À l'oreille.
Uniquement à l'oreille.
Uniquement à l'oreille.
Et ensuite, il y a eu sa prof de musique, il en parle largement dans ce documentaire, cette femme qu'il a haïe, qu'il a adorée, qui était un monstre d'exigence.
Ouais.
Tout ça est raconté dans votre film. Vous faites pas l'impasse non plus sur un sujet qui est pas évident à aborder, c'est le mauvais caractère de Michel Legrand.
Non, alors je ne fais pas l'impasse, mais c'est surtout Michel qui ne la fait pas, parce que c'est dès mon premier entretien avec Michel, que j'ai rencontré pour la première fois, il m'a dit « j'ai envie aussi qu'on parle de mon caractère ». Parce que ça, effectivement, c'est quelque chose quand même qui est assez connu, notamment dans le métier. Michel, oui, il a mauvais caractère. Michel
est
très dur. Voilà, il est impitoyable, mais en même temps, il a du mal à accepter... que les gens ne soient pas, ne le comprennent pas immédiatement et ne fassent pas immédiatement ce que lui a en tête. Donc,
il a cette très jolie phrase face à votre caméra. Je veux toujours savoir jusqu'où je pourrais aller trop loin.
Voilà.
C'est un documentaire passionnant et vraiment très beau avec ce qu'il faut de rythme et de poésie pour évoquer l'artiste et son œuvre. À voir donc demain soir sur Arte, 22h50, juste après Les Demoiselles de Rochefort. C'est une soirée infiniment Legrand. Demain. Notez d'ailleurs que le documentaire est déjà en ligne sur le site d'Arte jusqu'au 31 décembre. Merci beaucoup Grégory Monroe.
Merci beaucoup Dorothée et bon Noël alors, avec Michel.
Et bonne journée à vous.